Alors, bonjour à tout le monde pour continuer cette deuxième partie de cette session sur la Christologie. J'ai encore une question qui est venue, peut-être qu'on peut vite y répondre avant que tu continues, parce
Oui.
que c'est lié en fait un petit peu à ce qu'on a déjà dit avant. Donc, c'est un auditeur qui nous cite Proverbe 8, versets 22 et suivants, en disant que les témoins de Jéhovah utilisent souvent ce passage pour dire que Jésus est un être créé. Comment pouvez-vous l'expliquer?
C'est une excellente question. Premièrement, il faut remarquer que ce texte-là ne concerne pas Jésus. Le proverbe 8 est très souvent appliqué à Jésus, mais en fait, le texte ne concerne pas Jésus, mais concerne la sagesse de Dieu personnifiée. Donc, c'est une façon poétique, c'est de la poésie hébraïque, et donc la sagesse est personnifiée comme une dame, en fait, dans ce passage en hébreu. Et comme une dame, une personne qui est là avec Dieu depuis toujours. Donc, c'est une façon poétique de parler de la sagesse de Dieu. D'ailleurs, c'est très clair dans le verset 1 qui est introduit au proverbe 8, la sagesse ne crie-t-elle pas? Au verset 12, moi, la sagesse, je demeure avec la prudence, etc. Et donc, c'est la sagesse qui parle tout le long de ce livre-là. Donc, c'est. Si au départ, on dit tout de suite que c'est Jésus-Christ dont il est question, eh bien, on fait fausse route parce que c'est la sagesse personnifiée. C'est le principe même de la sagesse de Dieu qui est vue comme une personne, simplement pour la présenter de façon très, très claire. Alors, il ne fait aucun doute que Jésus est l'incarnation de la sagesse de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais dans le passage, a priori, il n'est pas question de Jésus. Voilà, c'est simplement une façon de nous dire que finalement, Dieu est sage dans ses plans éternels, dans sa création, dans la rédemption, dans tout ce qu'il fait. Voilà, ça c'est le proverbe 8.
Merci beaucoup. Alors, je te laisse continuer, partager ton écran et.
Voilà, là maintenant, nous sommes arrivés à Jésus-Christ dans l'histoire de la rédemption et franchement, on peut certainement dire que le Seigneur Jésus apparaît comme étant la personne clé dans l'histoire de la rédemption. Et vous savez ce que c'est que l'histoire de la rédemption? C'est la manière dont Dieu, à travers l'histoire humaine, va amener l'accomplissement du rachat de l'homme à cause du péché. Donc, la rédemption, c'est comment Dieu sauve l'homme, en fait, et ça débute déjà dans l'éternité passée, dans les plans éternels de Dieu, et ça va se concrétiser à travers tout l'Ancien Testament par un seul peuple, Israël, pour nous amener à l'incarnation de Jésus qui, à la croix, accomplira pleinement le plan de la rédemption. Et c'est ce que nous voulons maintenant regarder en mettant l'accent sur le rôle de Jésus dans l'histoire de la rédemption. Donc, nous allons regarder vraiment quelques passages, quelques textes d'abord qui nous montrent qu'avant même les événements de la chute, avant que tout cela n'arrive, Jésus-Christ était celui qui était prévu avant que le péché arrive. Jésus était prévu pour être celui qui allait racheter l'homme des conséquences du péché. Ce qui vraiment nous fait prendre conscience que même le péché faisait partie des plans souverains de Dieu pour racheter l'homme. Bon, maintenant, d'une façon logique, mais pas biblique, nous pouvons conclure que Dieu est l'auteur du mal, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui nous échappe, mais Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait, et dans le contexte de ces plans souverains qu'on ne peut pas comprendre pleinement humainement parce que nous sommes finis et limités, eh bien, Dieu a englobé même la chute, le péché et le moyen de racheter l'homme. Vous savez que le péché, quand il est arrivé, n'a pas pris Dieu par surprise. Il n'a pas dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Adam? Ah, oh, mais je m'attendais pas à ça, franchement. Là, il me surprend. Ça prend un plan de rédemption. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans l'Écriture. Le plan de rédemption, il se passe dans l'éternité passée. Vous allez voir, c'est convaincant avec les passages que nous allons lire, sans faire du tout violence au texte. Au contraire, en tenant compte du contexte, de la révélation progressive de Dieu, de la cohérence théologique, c'est évident que tout était encadré par le plan, pardon, souverain de Dieu, mais Franchement, sans qu'on ait ces conclusions peut-être logiques humaines, mais fausses, de dire que Dieu finalement est l'auteur du péché. C'est comme un peu, ce sujet a été traité par nos frères qui nous ont précédés dans les sessions Biblos, quand ils ont dit, voilà, on ne doit pas conclure que Dieu est l'auteur du péché parce qu'il a permis le péché. C'est difficile à comprendre. C'est vrai, on n'arrive pas à saisir cela. Mais je préfère dire, je ne comprends pas que de déboucher sur des raisonnements qui sont faux et qui ne tiennent pas devant la révélation progressive de Dieu. Alors, Jésus est vu déjà dans l'éternité passée comme celui qui allait racheter l'homme des conséquences du péché. Et c'est ce que Jean déclare dans Apocalypse 13, verset 8. Mais attention, dans la version seconde nouvelle édition de Genève et pas la version Darby. Parce que ici, je pense que second a rendu correctement le grec, mais pas Darby à ce point-là. D'après mon opinion personnelle, peut-être que, sûrement qu'il y a d'autres commentateurs qui vont voir la chose différemment. Mais je crois que le texte nous dit ceci dans Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Nous parlons du contexte de la bête, évidemment. Et donc, l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Les mots dès la fondation du monde dans la Darby se rattachent plutôt à l'expression le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Mais je crois que grammaticalement parlant et selon la syntaxe du grec, il est préférable de comprendre l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Mais là, dans notre esprit à nous, ce n'est pas possible et ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Jésus a été immolé à un moment précis de l'histoire humaine, c'est-à-dire sur le mont Golgotha, vers l'an 30 environ de notre ère, à la fin de son ministère public. Et c'est là que Jésus a été immolé, pas avant la fondation du monde. Mais pourquoi le texte dirait cela ainsi? Et je vais vous prouver que Jean n'est pas le seul à dire cela. Il y a d'autres auteurs aussi qui disent la même chose. Vous allez voir, c'est dit clairement ailleurs. Et si ce texte ici peut être contesté parce que dans les versions, on le rend différemment, les autres textes, on est tous d'accord sur leur sens et nous confirment également que Jésus, dès les temps éternels, avant la fondation du monde, avant que le péché arrive et avant que Jésus devienne un homme, il était prévu pour être l'agneau de Dieu sacrifié à cause du péché. Et nous allons lire, par exemple, dans Acte 2, verset 23, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. On voit les deux aspects d'une même médaille, les deux côtés d'une même médaille dans ce texte-là. On voit le côté du plan de Dieu souverain et on voit la responsabilité humaine. Les hommes sont responsables d'avoir crucifié le Seigneur, d'avoir agi comme des impies. C'est vrai, le texte le dit. Mais tout cela est arrivé selon le dessein arrêté et la préscience de Dieu. Franchement, ce sont des mots qui mettent l'accent sur la souveraineté de Dieu et ses plans éternels. Le dessein, c'est un plan. C'est un plan souverain et ce plan était arrêté, c'est-à-dire décidé d'avance. Ce n'est pas un plan B. Dieu n'a pas été surpris. C'est un plan qui est déjà arrêté d'avance par Dieu. C'était son dessein. Et Pierre, en prêchant l'évangile à ces gens, hein, qui avaient vécu la crucifixion, peut-être même l'avaient réclamé dans la foule, eh bien, il était en mesure de saisir que c'était déjà dans les plans éternels de Dieu que de donner son fils pour être livré et crucifié. Et ce n'est pas le seul passage. Un peu plus loin, dans Acte 4, les versets 27 et 28, nous lisons ceci. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les chefs ou les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alors, quand les chefs ont agi, quand les peuples d'Israël, c'est une manière d'englober probablement toutes les tribus d'Israël, de voir l'ensemble du peuple, eh bien, quand ils ont rejeté Jésus et l'ont crucifié ou l'ont fait mourir, Ils ont fait que ce qui avait été déjà arrêté d'avance. Le texte est hyper clair. C'est difficile de contester la souveraineté de Dieu dans ses plans éternels qui avait déjà prévu la crucifixion de Jésus de cette manière par la révolte, la rébellion des hommes et qui demeure pleinement responsable, hein, soit dit en passant. On ne peut pas dire, ah ben dans ce cas-ci, puisque c'était prévu dans les plans de Dieu, l'homme n'est pas responsable, il n'était qu'une marionnette et puis ils ont accompli les plans souverains de Dieu. C'est un raisonnement qui peut être logique humainement, mais pas biblique. Il n'est certainement pas en accord avec la foi et la saine doctrine dans les Saintes Écritures. Et n'oublions pas l'amour de Dieu qui aime le pécheur et n'oublions pas le prix qu'il s'est imposé à lui-même dès le départ, avant même que les événements arrivent. Ça va nous éviter d'avoir des raisonnements fallacieux et je dirais même fâcheux. Nous arrivons ensuite dans un texte de la première épître de Paul au verset 19 et 20, pardon, première épître de Pierre, chapitre 1, versets 19 et 20, qui nous disent ceci. Mais par le sang précieux de Christ, le début disait que nous sommes rachetés, non pas par des moyens humains, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, vous voyez que le texte dit bien qu'il y avait un moment dans l'histoire humaine où Jésus devait mourir, manifesté à la fin des temps. La fin des temps, dans ce passage, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est la période inaugurée par la mort de Jésus à la croix, dans laquelle nous sommes toujours, et qui va arriver ultimement, culminer, dans la période qui va nous amener au retour de Jésus-Christ. Ça c'est la fin des temps. Donc, c'est déjà la fin des temps quand Jésus meurt. Au moment où il meurt à la croix, c'est déjà la fin des temps. Mais par contre, cette mort, elle était prédestinée avant la fondation du monde. Le texte est incontestable. Ce n'est pas possible de s'opposer à une telle clarté dans la révélation progressive de Dieu. Maintenant, sans le lire, sans l'afficher non plus à l'écran, mais je vous rappelle ce verset dans les Éphésiens, chapitre 1, verset 4, où Paul dit que les croyants ont été élus avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour être saints et irréprochables devant lui. Cette élection et le but même d'être saints et irréprochables implique très clairement qu'un plan soit déjà mis en place dans l'éternité passée pour permettre sa réalisation. Si nous avons été élus avant la fondation du monde, il fallait déjà un plan de rédemption. Il fallait déjà un plan pour qu'il puisse permettre cette élection. Autrement, ce n'était pas possible. Dieu a en même temps planifié le moyen de racheter l'homme et il a planifié l'élection de ceux qu'il allait racheter. C'est assez extraordinaire et franchement, ça devrait nous amener dans un acte d'adoration profondément dans notre cœur. C'est pas tout l'aspect de la vérité biblique qui est dit dans ce que je viens de vous mentionner, mais c'est un aspect qui est très, très, très important. Donc, Jésus-Christ, dans l'histoire de la rédemption, c'est que dès les temps éternels, il a déjà prévu pour être celui qui allait accomplir le plan de la rédemption. Et regardez ce passage magnifique dans 2 Timothée 1, versets 9 et 10. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, c'est-à-dire qu'il nous a appelés d'une manière particulière pour nous mettre à part, non à cause des œuvres, de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Encore un mot qui fait allusion au plan éternel de Dieu. Et regardez la suite en grâce, c'est incroyable. Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus, à un moment donné de l'histoire, il est né, c'est l'incarnation, il a grandi, il a vécu, il a exercé un ministère public et il est mort, il a donné sa vie. Et à ce moment-là, au moment où il donne sa vie, la grâce de Dieu est manifestée d'une manière extraordinaire. D'une manière pratique. J'ai reçu cette grâce le 7 octobre 1990. Ça vient tout juste de faire 33 ans. Ça, c'est d'une manière pratique dans ma vie. Mais ce texte-là, vous savez ce qu'il me dit? Que ce n'est pas quand Jésus est mort à la croix, que ce n'est pas le 7 octobre 1990 en ce qui me concerne, mais la grâce m'a déjà été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Si vous n'êtes pas tombé à genoux en entendant cela, je ne comprends rien. Moi, je me retiens pour ne pas pleurer. Je suis très ému juste de lire cette phrase. La grâce nous a été donnée avant les temps éternels en Jésus-Christ. Je suis ébranlé. Il faut que je reprenne le contrôle de mes émotions. Parce que, franchement, c'est touchant de lire une chose pareille. Voilà, c'est la grâce de Dieu déjà, avant même que tout arrive. C'était déjà prévu. Ben, vous avez un sujet d'adoration dimanche prochain. Ne soyez pas silencieux au repas du Seigneur, je vous en prie. Parlez parce que vous avez quelque chose à dire là. Merci Seigneur pour cette grâce déjà donnée dans les temps éternels. Mais cette histoire de la rédemption débute donc dans les plans éternels et souverains de Dieu et devait s'accomplir à travers une postérité humaine particulière, comme on le voit dans cette promesse qu'on appelle le protévangile. Ça signifie quoi? Ça vient de protos et evangelion ou euangelion. Ça veut simplement dire la première annonce de l'évangile. La première fois où l'évangile, non pas dans toute sa nature et ses explications, mais l'évangile dans sa forme rudimentaire nous est donnée pour la première fois dans Genèse 3, 15. Et je tourne là-bas, si vous pouvez le faire avec moi, pour lire ce verset dans le tout début de la révélation progressive de Dieu. Ça, c'est la première promesse de rédemption à l'humanité qu'on voit dans la révélation progressive de Dieu. De là l'expression protévangile. Je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta semence et sa semence. Et regardez, elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Bien sûr que c'est pas clair que cette première promesse de rédemption, mais on a déjà une promesse qu'une postérité humaine particulière triompherait du diable et de sa propre postérité. Donc, on sait très bien qu'il y a une victoire qui est déjà prévue dès le début de l'histoire humaine, tout de suite après la chute, une promesse de Dieu qui intervient. Et à travers la révélation de Dieu, sa révélation progressive, eh bien, nous allons voir que Dieu va continuer de promettre cette histoire de la rédemption, en fait. Et entre la promesse initiale de la rédemption que nous venons de lire et sa réalisation dans l'incarnation de Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu fait? Il choisit un homme, Abraham, se choisit un peuple, une descendance en particulier, par laquelle va venir le Rédempteur. Donc, si vous parlez de l'histoire de la rédemption dans l'Ancien Testament, vous devez d'abord parler de promesses de Dieu à travers Israël, qui va nous donner le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul résume parfaitement cela dans un passage que nous avons ici dans Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, c'est-à-dire à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc, la descendance promise à Abraham, c'est le peuple d'Israël et qui devait nous mener à Christ. Et Paul résume tout cela dans ce passage pour nous dire que finalement, la descendance promise, c'est bien Jésus lui-même. Mais il allait passer par toute l'histoire d'Israël et c'est là que nous trouverons dans l'Ancien Testament le fil conducteur de l'histoire de la rédemption. Et celui que Dieu va utiliser pour faire ces choses à l'égard d'Israël, pour maintenir le peuple et la ligne de la rédemption, c'est encore Jésus-Christ, et ça m'impressionne au plus haut point. Jésus lui-même, qui est l'accomplissement de la descendance de la ligne de rédemption, est celui qui va préserver la ligne. C'est lui qui va préserver Israël dans l'Ancien Testament sous la forme de l'ange de l'Éternel. Et voici quelques-uns des passages les plus remarquables à propos de Jésus-Christ sous cette forme dans l'Ancien Testament en lien avec l'histoire de la rédemption. Ce texte-là m'a toujours renversé. Genèse 22, entre les versets 12 à 18, j'ai fait un résumé ici, bien entendu. Nous lisons ceci. Alors l'ange de l'Éternel dit, « Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. » En fait, regardez, l'ange de l'Éternel parle comme s'il était Dieu lui-même, puisque c'est à Dieu que cette offrande a été demandée, c'est pour lui. « Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je le jure par moi-même. » C'est l'ange qui parle. Parole de l'Éternel. L'ange est l'Éternel quelque part, là. C'est évident. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai parce que tu as obéi à ma voix. C'est évident que l'ange de l'Éternel parle au nom de l'Éternel parce qu'il y a quelque chose de l'Éternel en lui. Et ça ne peut pas être autre que Jésus. Je vais aller déjà au verset 18 de Jean 1. Je le cite brièvement de mémoire et on le lit dans quelques instants, mais ce texte nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. C'est évident qu'Abraham est en face de Dieu ici, mais personne n'a jamais vu Dieu. Alors, comment expliquer cette apparition, cette théophanie, cette apparition de Dieu-là, au moins d'un ange qui parle au nom de Dieu, donc c'est Dieu, quoi. Eh bien, comment expliquer cela? Jean 1, 18 donne la clé. C'est la clé qui déverrouille tous ces passages théophaniques ou christophaniques de l'Ancien Testament qui révèlent Christ dans l'Ancien Testament comme étant celui qui manifeste Dieu dans l'histoire de la rédemption. Comment on le voit? Jean 1, 18 dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, en parlant de Jésus, celui qui est dans le sein du Père, ce qui signifie en pleine communion, il fait un avec le Père, est celui qui l'a fait connaître ou manifesté ou révélé. » Alors, Jésus est l'ange de l'Éternel. Ça ne fait aucun doute maintenant à cause de la révélation progressive de Dieu. Mais déjà ici, là, on devait s'arrêter et se dire, « Mais attends un peu, cet ange, il parle comme s'il était Dieu. Qui est-il? » D'autres textes nous parlent aussi de l'ange de l'Éternel, et en particulier en lien avec l'histoire de la rédemption. Vous savez que pour que la rédemption arrive, Israël doit être préservé, dirigé, etc. On lit ceci dans Exode 23, verset 23. « Mon ange, c'est l'ange de l'Éternel, marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Hétiens plutôt, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » Voilà, c'est Dieu qui va protéger le peuple, mais comment? Par l'ange, et la suite de la révélation progressive de Dieu nous révèle que celui qui a accompli cela, en fait, c'est l'ange de l'Éternel, et donc, c'est Jésus-Christ. Deux autres textes à considérer, et cette fois, je vous invite à prendre vos Bibles parce que j'aimerais que vous l'ayez sous les yeux vous-même. Dans Josué, au chapitre 5, alors que le peuple de la rédemption, le peuple de la descendance rédemptrice, le peuple qui doit parvenir jusqu'à Jésus-Christ incarné, doit être protégé, doit être conduit, eh bien, va rencontrer son chef, va rencontrer celui qui va être à leur tête dans l'histoire de la rédemption, verset 13 de Josué 5. « Et il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et vit, et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? » Et il dit, « Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage, se prosterna devant lui, l'adora. C'est la même chose. Et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Si cet homme était un être humain normal, ce serait un blasphème que d'accepter que Josué se prosterne devant lui. Et ce n'est pas un hommage humain, là. Franchement, Darby avait tendance à traduire se prosterner qui a le sens d'adorer par rendre hommage. Et cela lui a été beaucoup reproché d'ailleurs. Et avec raison, je crois. Parce que dans beaucoup de passages, le sens n'est pas de rendre un hommage humain, mais d'adorer, vraiment d'adorer. Et puis ici, c'est le cas à mon sens. Et cette personne qui... Oui, se révèle être un ange, certainement, à la lumière des autres textes. Eh bien, il le laisse faire. Un ange ne laisserait jamais un homme l'adorer ou se prosterner devant lui, même si c'était pour lui rendre hommage. Il le relèverait, lui dirait, « Je suis un serviteur de Dieu comme toi. Hein? » On se rappelle Daniel, hein, par exemple, ou d'autres textes dans l'Apocalypse, il me semble. Bon, bref, j'y vais de mémoire et je suis tout excité, alors ça se peut que j'en échappe des bouts, mais je suis persuadé que vous me suivez. Il accepte cet hommage ou cette adoration. Et en plus, il prononce exactement la même parole que cette autre théophanie dans le début de l'Exode, au chapitre 3, où il y a le buisson ardent et l'ange de l'Éternel apparaît au milieu du buisson ardent et dit exactement la même phrase. Donc, franchement, on a l'évidence qu'il s'agit ici de l'ange de l'Éternel qui va se charger de marcher devant le peuple, exactement comme Dieu avait promis auparavant, hein, qu'il marcherait devant toutes ces nations-là pour les amener à la conquête du pays et donc à la protection de la lignée messianique. Parfois, on dit, mais c'était horrible que Dieu commande d'exterminer des peuples. On pourrait parler longuement de la responsabilité de ces peuples et des horreurs commises. Mais aussi, on devrait penser que, oui, mais c'est à travers ces actes de guerre que la lignée de rédemption va être protégée et préservée pour que l'homme puisse être sauvé, hein? Et même des hommes de ces nations, qui plusieurs ont été sauvés, mais les rebelles, les révoltés ont été jugés, c'est vrai. Maintenant, bon, j'ai fait une longue parenthèse, mais allons dans Ésaïe 63, c'est l'autre texte, là. Je pense qu'il y a une erreur dans le PowerPoint original. Oui, j'ai corrigé, je crois que c'était écrit verset 7, mais c'est Ésaïe 63, 9. Retenez ça, puis vous corrigerez si vous téléchargez le PowerPoint sur le site de Biblos. Parce qu'il y a une erreur, c'est pas Ésaïe 63, 7, c'est bien 9 comme ici à l'écran. Et là, on lit ceci. Dans toute leur détresse, il a été... Dans toute leur détresse, il a été en détresse et l'ange de sa face les a sauvés. Dans son amour et dans sa miséricorde, il les a rachetés. Il s'est chargé d'eux et il les a portés tous les jours d'autrefois. Ce texte-là mentionne clairement que l'ange de l'Éternel a été là pour le salut d'Israël, pour sa protection, pour être à la tête du peuple. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, en fait, est celui qui était véritablement à la tête du peuple d'Israël, par lequel le peuple, un jour, Jésus devait accomplir ce qui est nécessaire à la rédemption. En tant qu'ange de l'Éternel, Jésus apparut parfois comme un homme. Et ça, c'est pas nouveau. On voit dans l'Ancien Testament que des apparitions d'anges sont sous forme humaine. Mais c'est très différent de l'incarnation. Parce que, comme ange de l'Éternel, Jésus apparut comme un homme, on le voit dans Josué 5. Mais dans l'incarnation, Jésus est devenu un homme et pleinement un homme. Et c'est là où nous allons maintenant, dans l'incarnation de Jésus-Christ. Et quand on parle d'incarnation, bien sûr, on parle de souffrance qui s'y rattache et qui était aussi clairement prévue dans les promesses prophétiques de Dieu. Il y a ces deux textes que l'on connaît bien dans Ésaïe. Je ne vais pas les lire maintenant, ils sont à l'écran, mais vous les connaissez en lien avec l'enfantement de la Vierge, hein, qui va nous donner Emmanuel, ce fils qui nous est donné. Et puis, il y a aussi ce texte dans 1 Pierre. Voilà le texte, pardon, je ne l'avais pas affiché. Dans 1 Pierre 1 au verset 10 et 11, un texte qui évoque de toute évidence les souffrances de Jésus, entre autres dans Ésaïe 52 et 53 et beaucoup d'autres, les prophètes qui ont prophétisé rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ. Que Jésus soit incarné, on le voit dans Ésaïe 7 et 9, que Jésus devait souffrir. D'après Pierre, les prophètes en ont parlé et je pense à Ésaïe 52, 53, c'est très clair aussi. Et au moment prévu par Dieu, Jésus est né. Il est devenu un homme parfait, comme on voit dans ce passage de Galates 4, verset 4. Quand l'accomplissement du temps est venu, c'est-à-dire au moment où l'agenda de Dieu devait s'accomplir dans l'histoire humaine, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, et c'est l'incarnation dont il est question ici. Cette incarnation qui nous est présentée d'une manière remarquable dans ce fameux passage de Jean 1, que j'aime cette expression, la parole devint chair et habita comme un tabernacle. Ça nous rappelle tout le concept d'un Dieu présent avec son peuple. Eh bien, Jésus est là, il a été fait chair. C'est lui qui révèle Dieu. C'est lui, parce que personne n'a jamais vu Dieu, mais lui manifeste Dieu, et même dans son humanité. Même dans son humanité, venant accomplir le plan de la rédemption, Jésus est Dieu. Il a été souvent souligné que, en devenant un homme, Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. Il est toujours demeuré Dieu. C'est vrai que son incarnation est un abaissement. On dit parfois « l'éternité est entrée dans le temps ». C'est un abaissement quelque part, ça. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait esclave dans la personne de son fils, hein, dans les Philippiens. C'est vrai que Jésus a voilé sa gloire majestueuse, mais l'incarnation n'est en aucun cas une diminution de sa divinité. Au contraire, comme Paul le dit dans ce passage, dans les Philippiens que vous voyez maintenant, lequel, en parlant de Jésus, étant en forme de Dieu. Le mot « forme » parle de la nature même de Dieu. « Étant » est un participe présent, donc continuel. Jésus existe en forme de Dieu, comme on le voit dans certaines versions. C'est-à-dire qu'il a toujours été Dieu, n'a jamais cessé d'être Dieu et sera toujours Dieu. Eh bien, lui qui est Dieu n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, c'est qu'il n'a pas réclamé cette majesté, cette gloire divine dans son humanité. Au contraire, il s'est fait homme, paru à la ressemblance des hommes, trouvé en figure comme un homme, s'est abaissé lui-même, devenant obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Alors, ce texte-là nous dit que Jésus était pleinement Dieu tout en étant pleinement homme. Impossible à comprendre pleinement pour nous, parce que la seule expérience de l'humanité que nous avons, c'est une humanité pécheresse. Alors, comment comprendre une humanité parfaite, divine en plus? Mais nous devons le croire, parce que dans l'incarnation, Jésus était encore pleinement Dieu, parfaitement Dieu. Jésus est impeccable. Ce mot-là signifie, du latin impeccare, ne peut pas pécher. Ça veut dire que Jésus ne peut pas pécher. Pas qu'il n'a pas péché, parce qu'il n'a pas voulu pécher. Il ne pouvait tout simplement pas pécher. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Et Dieu ne peut pas pécher. Et son humanité est parfaite. Elle est réelle, mais elle est parfaite, contrairement à nous. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elle était parfaite que son sacrifice est accepté et qu'il peut nous sauver, parce qu'il n'était pas pécheur comme nous. Ne dites pas, s'il vous plaît, « Ah, Jésus a été fait pécheur pour nous ». On entend parfois, et je comprends que c'est juste une confusion de langage, mais on doit faire attention à nos mots. Jésus n'a jamais été fait pécheur, il a été fait péché. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Jésus était impeccable. Regardez ce que Pierre dit. Pierre, un homme d'action, dit de Jésus, il n'a pas commis de péché. Je sais que ça va vite, mais soyez pas inquiets, vous aurez tout dans le document par la suite. Paul, l'homme de connaissance, dit Jésus n'a pas connu le péché. Et Jean, lui, son but dans la rédaction était de nous parler de la nature même de Jésus. Alors il nous dit, il n'y a point de péché en lui, et point, c'est plus fort que pas. Très souvent, en tout cas, dans la pensée de Darby, en traduisant, c'est pour dire pas du tout, c'est impossible, il n'y a pas aucun péché dans le Seigneur Jésus. Il est parfait. Mais dans l'incarnation, Jésus a été véritablement un homme. Bien qu'il soit parfait et sans cette nature pécheresse, Jésus a vécu, a souffert les expériences propres à l'humanité. Nous allons les voir brièvement. Vous pourrez les lire plus longuement plus tard. On voit dans les différents passages ici que Jésus a été tenté, méprisé, rejeté. Il a connu la faim, la fatigue, la soif, le sommeil, la frayeur et l'angoisse, et même la mort. C'est dans l'incarnation que Jésus vit ces choses, dans l'expérience humaine. Et quand Jésus est mort, Dieu n'est pas mort. C'est Jésus dans son humanité qui est mort. C'est en tant qu'homme qu'il a vécu cela. Mais étant Dieu, Dieu n'est pas mort. Là aussi, il y a un mystère et n'allons pas trop loin parce qu'on peut déraper assez rapidement dans de fausses doctrines à ce sujet. Mais Dieu n'est pas mort. Ce serait un syllogisme, c'est-à-dire un raisonnement humain logique, mais pas biblique. Alors, il faut qu'on accepte que Jésus est mort et c'est une expérience dans son humanité qui était tellement parfaite que Paul peut dire aux Colossiens, en lui, en Jésus, nous avons la rédemption. La voilà, la fameuse rédemption. C'est quoi la rédemption? La rémission ou le pardon des péchés. Jésus était à la tête d'Israël pour maintenir la ligne qui allait aboutir à celui qui allait accomplir dans l'incarnation la rédemption. Et Jésus l'a fait de manière parfaite. Il est ressuscité, il est retourné au ciel, et voilà que maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est d'une manière particulière dans l'Église. Après son ministère public, après son sacrifice, après sa résurrection, le Seigneur Jésus est retourné dans le ciel. C'est lors de cet événement historique que nous appelons l'Ascension et qui nous est présenté dans Luc 24 et Acte 1. Et depuis ce moment-là, le Seigneur Jésus exerce des rôles et ministères dans l'Église de manière très active. C'est impressionnant comment actuellement Jésus agit beaucoup dans l'Église de la manière suivante. Il est sacrificateur et avocat. Hein, il intercède toujours pour nous à cause de notre nature pécheresse. On tombe, mais on doit confesser et se relever. Et Jésus est là. Il intercède. Satan accuse, mais Jésus le fait taire. Il est aussi l'époux céleste, hein, qui nous rapproche de lui, qui nous donne un sentiment d'amour et d'affection envers lui et qui, lui, nous purifie de plus en plus que nous nous rapprochons de lui. Il est la tête du corps de l'Église. C'est lui le véritable chef. C'est lui qui dirige toutes choses. Et vous lirez les textes qui sont entre parenthèses, là, sont assez évocateurs à ce sujet-là. Jésus est au milieu de son peuple pour régler les différends dans le contexte de Matthieu 18. Il est le Seigneur souverain, il est le maître en toutes choses et il est aussi le roi, quoique cet aspect-là en lien avec l'Église est beaucoup plus rare, beaucoup plus rare. On le voit dans les paraboles du royaume qui concerne l'Église dans Matthieu 13, puisqu'il appelle l'Église un aspect du royaume. On le voit dans le royaume de son amour dans les Colossiens, et on voit aussi qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, si nous sommes un royaume, il est forcément le roi. Mais on voit cet aspect assez peu. Par contre, un jour, nous verrons pleinement Jésus-Christ dans son règne, et l'on connaît bien ces passages, Apocalypse 20, pardon, je suis allé un petit coup trop vite, je reviens, Apocalypse 20, les versets 1 à 6, qui évoquent ce règne de 1000 ans du Seigneur Jésus. C'est vrai que maintenant, Jésus règne dans le cœur de tous les croyants de l'Église, et on espère que c'est vrai d'une façon pratique, mais Jésus va régner un jour sur son peuple Israël, sur un peuple régénéré, bien entendu, sur tous les hommes, et cela depuis son trône à Jérusalem. Bref, il va accomplir toutes les promesses des alliances de l'Ancien Testament à l'égard d'Israël, et ce règne va durer d'une façon particulière pendant 1000 ans. C'est ce qu'on voit très clairement dans l'Apocalypse 20, au verset 1 à 6, et nous avons même la promesse que nous régnerons avec lui. Ce qui nous amène au tout dernier point, Jésus-Christ dans l'éternité future, bien entendu qu'il y a beaucoup moins de détails qui nous sont donnés dans ces passages et dans son rôle, en fait, par rapport à cette éternité future. Il reste le maître, le Seigneur et tous les titres que nous avons vus auparavant, il n'y a aucun doute. Mais je voulais souligner un rôle particulier de Jésus aux portes de l'éternité future, c'est-à-dire au jour du jugement qui est mentionné dans Apocalypse 20, les versets 11 à 15. C'est le grand trône blanc où là, par Jésus, Dieu va juger tous les hommes incroyants à travers son Fils. On le voit dans Acte 17 déjà, lorsqu'il est dit ceci à la fin du verset, que Jésus doit juger, en fait, que Dieu doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, c'est-à-dire par Jésus. On se rappelle que Jésus, en venant comme homme sur la terre lors de sa première venue, a dit « Le Père n'a pas envoyé le Fils afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. » C'est toujours le cas actuellement. C'est toujours le moment de croire en Jésus comme son sauveur parce que Jésus est sauveur maintenant, présentement. Mais à ce moment-là, Jésus sera juge. Et à ce moment-là, il jugera tous les hommes par leurs œuvres qui seront ensuite condamnés à la perdition éternelle dans l'étang ardent de feu et de soufre qu'on appelle souvent l'enfer communément, c'est-à-dire le lac de feu. Dans les Écritures, il est aussi fait mention de jugement dans ce passage de 1 Corinthiens 15, puisque la référence est là et que vous aurez le canevas complet, je vais m'arrêter ici. Mais il y a un dernier passage que j'aimerais souligner concernant l'éternité future, c'est ce merveilleux texte. Il ne nous dit pas tout, il y aura de magnifiques surprises à découvrir, c'est vrai, mais on lit ceci avec Jean. Et nous sommes arrivés à la fin de la révélation progressive de Dieu. Et je ne vis pas de temple en elle, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem qui correspond à l'habitation éternelle de tous les croyants pour l'éternité. Pourquoi il n'y a pas de temple? Parce que le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant et l'Agneau en sont le temple. Autrement dit, nous sommes dans leur présence immédiate, pas besoin de temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est suffisante et l'agneau aussi. On parle de la gloire de Dieu qui illumine et l'agneau de Dieu qui en est la lampe. Quelle belle manière de dire, voici dans l'éternité future, nous serons dans la présence même de Dieu, une présence glorieuse. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça aura l'air, mais franchement, moi, je suis convaincu que ça va être juste merveilleux. Voilà ce que je voulais vous présenter au sujet de qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire la doctrine du Fils de Dieu, et trois ressources particulières que je recommande pour approfondir ce sujet. C'est le chapitre 20, qui parle de christologie, bien sûr, dans l'ouvrage « Introduction à la théologie » de Paul Hans. Le chapitre 4, toujours sur la christologie, dans la théologie systématique de MacArthur. Et dans le dictionnaire biblique d'Emmaüs, tout simplement l'article « Jésus-Christ » par René Pache. Vraiment extraordinaire. Je m'arrête maintenant. Période de questions.
Merci Gilles pour ce marathon.
Je suis fidèle à mes habitudes, pardonnez-moi.
Ça a été tellement rapide que les auditeurs n'ont pas eu le temps de poser des questions encore. J'en ai juste une pour le moment. Je crois que c'était peut-être un peu en lien avec ce qui a été dit au début. Dans ce plan de rédemption, tu as rappelé en fait que des hommes ont agi pour crucifier le Seigneur Jésus, mais selon le plan, selon la préscience de Dieu, selon le dessein établi de toute éternité de Dieu. Alors comment peut-on expliquer que ces bourreaux seront jugés pour cette condamnation, pour cette action qu'ils ont accomplie envers le Seigneur Jésus, si Dieu a préparé les choses d'avance?
Oui, il y a plusieurs manières de répondre à ça. Je suis conscient que certains théologiens vont dire, par exemple, que Dieu n'a pas planifié ces choses, il le savait tout simplement dans sa préscience et c'est arrivé comme cela parce qu'il le savait. Ça peut être pour plusieurs personnes une réponse satisfaisante. Le point est qu'on doit réaliser que bien que c'est dans les plans souverains de Dieu, que ce soit parce qu'il le savait ou parce qu'il l'a prévu ou parce qu'il l'a décrété, moi je ne vais pas jusque-là personnellement. Mais quoi qu'il en soit, l'homme demeure toujours pleinement responsable de ce qu'il fait. Il est exposé à la révélation de Dieu, à une mesure de révélation suffisante, et l'homme décide par lui-même de croire ou de ne pas croire, d'accepter ou de rejeter cette révélation de Dieu et donc demeure pleinement responsable. On peut citer, par exemple, le cas de Judas. Il est prophétiquement le fils de la perdition, mais il est pleinement responsable d'avoir rejeté un ministère qu'il a reçu pareillement aux autres, de la même manière aux autres que les autres, c'est-à-dire, et il a pris sa décision. Donc, Judas est responsable d'avoir livré Jésus, même si dans la prophétie biblique, il était déjà annoncé d'avance que le fils de la perdition livrerait le fils de Dieu. Donc, il y a pour nous là quelque chose de difficile, ce que j'appelle une tension biblique entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. C'est comme deux aimants qu'on n'arrive pas à coller. Elles font toujours ça. Elles se repoussent mutuellement, ces deux aimants, quand elles sont, vous savez, inversées. C'est un peu ce que représente la tension biblique entre deux doctrines qu'on n'arrive pas à concilier dans notre intelligence. Mais si on est satisfait avec l'explication que Dieu savait les choses et qu'elles sont arrivées parce que Dieu le savait, où il savait que les choses allaient arriver ainsi, elles sont arrivées ainsi parce que l'homme en est responsable, ça va. Pour moi, ça ne pose pas tellement de problèmes en bout de ligne. Parce que je garde à l'esprit qu'il y a un élément qui m'échappe totalement là-dedans.
Merci. Alors, je crois qu'il n'y a vraiment pas de questions. Je ne sais pas si l'un ou l'autre des auditeurs, voilà, quelque chose qui arrive en ce moment. Alors, on continue un petit peu sur, dans le domaine de la doctrine calviniste. Comment peut-on expliquer que Dieu ait choisi certains depuis l'éternité passée pour le salut et affirmer que la perdition des autres n'est pas le choix éternel de Dieu?
Parce que la Bible n'enseigne pas la double prédestination, tout simplement. La Bible n'enseigne pas ça. Il n'y a aucun passage qui enseigne ça. La Bible enseigne clairement que Dieu a élu ceux qui vont être sauvés par grâce avant même la fondation du monde. Ça, c'est clairement enseigné. La Bible enseigne aussi clairement que l'homme est responsable de se repentir et de croire pour être sauvé. C'est l'aspect de la foi et la repentance qui sont absolument nécessaires pour le salut. Et les deux sont difficilement réconciliables à nouveau, mais la Bible n'enseigne pas que l'homme a été prévu pour l'enfer. Certains ont été prévus pour l'enfer. Il y a un texte qui est contesté à ce sujet dans Romains 9 avec les vases destinés à la colère, mais le sens ou la voix du verbe en grec peut être comprise comme étant une voix moyenne, c'est-à-dire que ce sont les hommes eux-mêmes qui se préparent eux-mêmes pour la perdition par les péchés qu'ils commettent et parce qu'ils sont de nature pécheresse après tout et parce qu'ils sont tombés en Adam déjà au départ. Donc, moi, je trouve que ce sont des questions sensibles. Et dès qu'on essaie de clarifier cela avec un raisonnement dogmatique absolu, on passe dans l'erreur automatiquement. Moi, je préfère rester avec une position modérée. Je suis calviniste en théologie, mais calviniste modéré, je ne suis pas du tout un 5 points, modéré parce que je crois, entre autres, que Dieu est souverain dans l'élection, ça ne fait aucun doute à mon sens, Jésus a tellement enseigné là-dessus, mais que l'homme est à la fois aussi pleinement responsable de se repentir et de croire, et que les croyants sont responsables de prêcher l'Évangile pour que les gens puissent être sauvés. L'équilibre pour moi se voit entre Romains 9 et Romains 10. Romains 9, c'est l'élection, Romains 10, c'est la prédication et la repentance et la foi.
Merci. Voilà. Effectivement, ton exemple des aimants qui s'éloignent l'un de l'autre quand ils sont opposés par le même pôle est assez frappant parce qu'on voit que ça a une application un peu partout quand
Oui.
on considère la grandeur de Dieu qui nous dépasse. Alors voilà, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je passe la parole à Jacques pour terminer. Peut-être encore un qui vient d'arriver. Petit instant, Jacques. Alors, question par rapport à Apocalypse 21, verset 23. Pouvez-vous m'éclaircir sur le dernier passage d'Apocalypse 21-23 où on parle de la gloire de Dieu qui l'a illuminé? S'agit-il de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit?
A priori, quand on voit Dieu, le nom de Dieu mentionné seul, mais accompagné d'un passage clairement distingué, je devrais dire, par la personne de Jésus, on devrait comprendre Dieu le Père. Et on remarque que le Saint-Esprit a un rôle effacé, il n'est pas moins Dieu, mais de par son rôle éternel, en tant que membre de la Trinité, le Saint-Esprit a un rôle effacé qui a pour but de mettre en valeur le Père et le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas égal au Père et au Fils en fonction. Il est égal au Père et au Fils en nature, c'est-à-dire qu'il est pleinement Dieu, mais n'a pas du tout la même fonction. D'ailleurs, c'est la même chose pour le Fils. Il n'est pas égal au Père en fonction. Le Fils n'est pas le Père. On ne pourrait pas parler ainsi, ni le Père, le Fils. Ils sont un en unité divine, c'est vrai, mais avec un rôle et une fonction particulière et propre à chaque personne de la Trinité. Et donc, on voit clairement dans l'Écriture que le Saint-Esprit est christocentrique. Il amène l'attention surtout sur la personne du Fils, sur Christ. Il ne parle pas de lui-même. On voit clairement ça dans l'enseignement de Jésus dans la chambre haute, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14 à 16. Et donc, même à la fin, où est l'accent? Le Saint-Esprit est comme, il est là, c'est évident qu'il est là, il est présent partout, il est aussi encore en nous, mais il est à l'arrière-plan de toutes ces scènes parce que c'est la personne du Père et du Fils qui sont mises de l'avant. Voilà ce que moi je répondrais là, à brûle pour point, rapidement comme ça.
Merci beaucoup. Alors on arrive au bout de cette soirée qui était très remplie. Merci pour cette présentation. Et cette fois, je passe la parole à Jacques pour terminer cette soirée.
Alors, un très grand merci, Gilles, pour cette présentation qui nous rappelle les gloires et la grandeur extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que les hommes, que Satan essaie toujours d'abaisser notre Seigneur au niveau d'un ange ou au niveau d'un prophète, au niveau d'un philosophe ou d'un révolutionnaire, eh bien, cette parole que Dieu nous a laissée montre bien qu'il est Dieu de toute éternité et notre sauveur personnel. Nous allons finir par la prière. Oui, Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole, pour ce message que nous avons entendu, combien important, qui nous montre les gloires infinies de ton Fils qui est devenu notre sauveur et notre Seigneur, puisque nous croyons en lui. Nous te prions que nous puissions ainsi être fortifiés, encouragés dans nos vies personnelles pour l'adoration autant personnelle que collective dimanche prochain. Que nous puissions nous rappeler de ces versets extraordinaires que nous avons vus ce soir et que nous puissions ainsi l'honorer dans nos vies. Nous nous remettons à toi pour la fin de cette journée ainsi que pour cette semaine en te priant de nous bénir les uns et les autres. Au nom de Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.